Elle parle du futur dans les fumées à vin, des cercles réfléchis par des miroirs obscurs. Tout le monde s'épie, blanchit et se rassure. Et s'il te reste encore une portion d'azur, une idée libertaire, une folle passion, et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Positive et inquiète, pour souffler pourri, corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la génuflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption.
T'as besoin d'oseille, tu cours toujours à court de jus, c'est la surchauffe. Tu perds du poids, tu passes ton tour, faut qu'il dégraisse, faut que tu débauches. Va faire un crédit, c'est TLM, pour te payer la nouvelle BM. Sors ton costume, faut que tu consommes, si t'as pas de thune, t'es pas un homme. Faut que t'assures, faut que tu dépenses, essaie de sauver les apparences. Va faire un crédit Cofidis, pour payer les Nike à ton fils. C'est l'engrenage, t'es pris dedans, tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans, ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible, ça va trop vite pour tes guiboles. T'es pris au coup, t'es pris pour cible, on te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez Bébert, te saouler à la Jupiler. Les temps modernes. T'as le spleen, t'es has-been, t'as pas la dernière machine. T'as plus de boulot, t'as plus de copines, ta vie tient même plus un fil. Va faire un tour sur la toile, te refaire un réseau social. Derrière ta cam de surveillance, tu te sens pas en sécurité. ta douce France, y'a trop de bougnoules, y'a trop de PD. C'est pas que de la faute à Rousseau, si t'es devenu un vieux facho.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération Anarchiste, troisième lundi du mois, il est 18h passé de 7 minutes, désolé pour le léger retard au démarrage de cette émission que nous avons consacrée aujourd'hui à la situation à Gaza. Nous n'avons pas l'habitude dans cette émission de traiter de l'actualité, et mais pour cette fois, nous voulions aborder cette question, cette question importante de la situation et de la guerre qui est déclenchée maintenant depuis le 7 octobre dernier. Après les terribles massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Le début de cette guerre absolument effrayante, nous avons tous été indignés, choqués, émus par cette situation. Au-delà de l'émotion et au-delà de l'indignation tout à fait légitime, bien sûr, que suscite partout dans le monde et pour nous aussi cette situation intolérable qui conduit des millions d'habitants de Gaza dans une situation absolument insoutenable. Nous voulions revenir sur cette situation et l'aborder du point de vue qui est le nôtre, un point de vue anarchiste, un point de vue internationaliste et un point de vue bien sûr antiraciste. Pour garder d'abord la boussole, pour tenter de réfléchir à cette situation et d'en analyser à la fois peut-être pas les tenants et aboutissants, en tout cas le contexte d'une manière générale, et puis aussi ce que ça représente pour nous, militants ou sympathisants de la cause libertaire et révolutionnaire, et de ses implications dans les discussions, les débats et les relations dans le monde qui est le nôtre et dans notre milieu politique plus ou moins proche pour tenter d'y voir un peu plus clair. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Nedjib Sidi Moussa, que nos auditeurs connaissent bien. Bonjour Nedjib.
Bonjour.
Tu es déjà venu à plusieurs reprises dans notre émission. Mmh. Tu es docteur en sciences politiques. Tu réfléchis aussi avec nous et avec beaucoup d'autres aux questions de relations à la fois politiques, mais aussi... de relations internationales, mais on n'est pas ici pour faire une émission de géopolitique ou d'analyse stratégique. Hein, oui. Ce n'est pas du tout notre propos. Nous ne sommes ni toi, ni moi, ni René Berthier, qui est notre deuxième invité, qui normalement devrait pas tarder, les transports en commun étant ce qu'ils sont, qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Nous ne sommes pas ici pour faire une émission d'expertise. Il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne de télévision pour voir de pseudo-experts ou parfois de vrais experts. Et nous renverrons le cas échéant nos auditeurs à certaines sources d'informations si cela s'avère nécessaire, mais nous sommes là pour tenter de réfléchir et de donner un éclairage sur cette situation. Notre ami René qui va bientôt arriver, nous sommes déjà dans le studio installé et il devrait pas tarder. Notre ami René, lui, a consacré plusieurs émissions au début des années 90 sur cette antenne, après la guerre du Golfe de 91, plusieurs émissions pendant plusieurs années, et il avait publié aux éditions Acrasi un ouvrage qu'on peut trouver sur son site internet, que nous rappellerons tout à l'heure, un ouvrage Israël-Palestine, micronationalisme. J'ai plus le titre exact en tête, mais on va le retrouver. En tout cas, il avait, à l'époque, dans les années 98, il avait publié cet ouvrage très documenté. Et justement, il avait abordé cette question avec le point de vue anarchiste. Quelle a été ta réaction à toi au moment du début de cette offensive? Comment, en tant que militant ou que sympathisant révolutionnaire, en tant qu'analyste aussi de politique, comment tu as pu voir et comprendre ce qui se passait le 7 octobre ?
Alors c'était difficile pour moi d'avoir une analyse froide sur une question que je suis depuis longtemps, même si je ne prétends pas en être un spécialiste, et même si j'ai aussi parfois mis des choses à distance pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra peut-être au cours de l'émission. Mais la première réaction, c'est que je me suis senti mal dès le 7 octobre et que les réactions... Alors maintenant, la situation a bien évolué, mais disons que les réactions de gens dont on était proche, dont on est toujours proche, sur plein de questions... Attention, je ne veux pas non plus... alimenter un climat qui est assez virulent justement contre tout ce qui exprime une solidarité avec les Palestiniens, avec les Gazaouis qui sont aujourd'hui sous le feu des bombes. Là aussi, faut être précautionneux, je dirais, dans les mots qu'on utilise et dans ce qu'on essaye d'expliquer. Mais il est vrai que j'ai parfois été un peu sidéré par ce que j'ai pu entendre de la part de certains de nos compagnons et nos camarades. Néanmoins, je pense qu'il fallait et qu'il faut toujours aujourd'hui essayer de trouver des cadres de discussion, des cadres d'élaboration et des manières d'exprimer sa solidarité. Solidarité avec les victimes d'abord, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut, et aussi essayer dans la mesure du possible, même si nous sommes, abasourdi par la propagande, par l'horreur, par l'assassinat, par les bombardements, par les tueries de masse, appuyées par les technologies. En tout cas, ceux qui s'intéressent à ces aspects le savent bien mieux que moi. Essayer autant que possible donc de tenir sur des principes, justement, refus du nationalisme, refus du cléricalisme, refus des logiques d'État et des raisons d'État qui justifieraient justement l'indifférence, l'assassinat, le meurtre et le bombardement, au nom d'une légitimité à laquelle, on refuse, en tout cas je refuse, de souscrire. Et donc essayer, malgré le chaos, malgré l'horreur, malgré l'effroi, le désarroi, l'abattement aussi qui peut nous frapper, eh bien continuer à essayer de porter nos idéaux de solidarité, nos idéaux internationalistes, même si on n'a pas nécessairement toujours le vent en poupe dans ce contexte-là, et essayer, là encore, c'est mon côté optimiste, essayer d'être à l'écoute justement des regroupements possibles. Hein, sur des bases internationalistes qui dépassent justement les frontières que la guerre justement approfondit en fait et durcit. Donc c'est pourquoi, alors, là encore peut-être qu'on reviendra là-dessus, j'ai été très sensible par exemple à une déclaration, hein, même si je parle de déclaration élaborée par d'autres, on peut toujours avoir des réserves, mais une déclaration, justement une lettre ukrainienne de solidarité avec le peuple palestinien, hein, qui a d'abord été publiée dans une revue ukrainienne de gauche et qui a été très vite traduite en français, notamment par la revue Ballast, le 2 novembre 2023, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais qui justement, face aux deux poids deux mesures en fait qui était celui et qui est toujours celui des grandes puissances, eh bien ces militants ukrainiens de gauche, intellectuels, syndicalistes et autres disaient que on refuse d'opposer une question à une autre, une solidarité contre une autre, et au contraire nous en tant qu'Ukrainiens on tend notre main aux Palestiniens qui sont aujourd'hui sous les bombes. Donc j'ai trouvé que c'était une expression d'internationalisme qu'on pouvait soutenir au moins si ce n'est avec ferveur, du moins avec intention ou bienveillance, comme on dit aujourd'hui. Et puis, il y a un autre texte également que je voulais signaler aux auditeurs. C'est un texte qui a d'abord été écrit en anglais, qui a été traduit en français sous le titre suivant. Alors, ne vous laissez pas non plus abuser par le titre, même s'il peut parfois, je sais, pour les auditeurs, ça peut paraître un petit peu absurde ou abstrait. Le titre, c'est « Pour une gauche démocratique et internationaliste », et le sous-titre, c'est « Contribution au renouveau et la transformation de la gauche ». Il est daté du 10 décembre 2023. Alors, ce sont des universitaires et des militants du monde anglo-saxon qui l'ont élaboré. Dans le contexte, effectivement, d'effroi qui a suivi les attaques du 7 octobre, mais aussi la riposte horrible, dévastatrice de l'État d'Israël et de l'armée israélienne. Et qui, à mon avis, ce texte qui est assez long, qui est peut-être un peu trop long, pose à mon avis aussi les questions de l'ambivalence aussi et des réactions qui étaient problématiques à gauche essentiellement, puisque c'est une contribution qui affirme hein, ses convictions internationalistes, mais qui engage un débat, qui essaie de porter un point de vue critique, y compris dans une situation qui est elle-même critique. Et avec quelques amis internationalistes de France, en France, je ne dis pas français, on est internationaliste d'abord, on a signé ce texte, en tout cas on a apporté notre soutien, et là encore j'invite les auditeurs de Radio Libertaire à s'en saisir, à le lire, à le critiquer éventuellement, ou à engager éventuellement un débat avec les initiateurs.
Ouais. Merci Najib pour cette introduction. Je voudrais poser la même question à René. Bonsoir René, tu nous as rejoint dans le studio, merci pour ta venue.
Je suis désolé du retard, je suis victime d'une correspondance merdique à Saint-Lazare.
Oui, ça arrive.
On fera bientôt, prochainement, une émission sur la déréliction des transports en commun qui va s'annoncer cette année olympique. Je disais en présentation de l'émission que tu avais travaillé sur les questions propres du Moyen-Orient en 91. Sur cette antenne, tu avais animé une émission pendant quelques années.
Au moment de la guerre du Golfe, là, c'était en fin 90, début 91, Radio Libertaire a organisé une sorte de riposte, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle a donné la consigne aux responsables de toutes les émissions, même celles qui n'étaient pas politiques, de laisser la parole de temps en temps à une espèce de commissaire politique, entre guillemets, évidemment, c'est ironique, pour couper les émissions en cours et faire des informations sur les manifestations en cours, sur toutes sortes de choses qui pouvaient ou faire des débats, etc. Bon.
Alors, juste pour rappeler pour les plus jeunes de nos auditeurs que 91, c'est une guerre qui va opposer l'Irak et les États-Unis après l'invasion de l'Irak par le Koweït.
Une coalition internationale.
À laquelle la France avait participé, contrairement à ce qui s'est passé plus tard en 2003.
Ouais. Ça, c'était Mitterrand qui avait.
Voilà.
Et
qu'ici, il y avait eu un grand mouvement anti-guerre.
Oui. Alors, c'est peut-être pas dans le sujet, mais quand même un peu, parce que il faut comprendre le contexte de l'époque. C'était, les médias étaient unanimes pour la guerre. Mmh. Il fallait battre la 4e armée du monde, ce qui était complètement idiot quand on.
Oui, bon, propagande.
Il y a une propagande hallucinante. Et si t'avais la peau un peu basanée, il fallait raser les murs parce que il y avait des contrôles d'identité en masse, etc. Bon. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé avec une émission un peu malgré moi, qui était quotidienne au début, qui s'appelait Les Chroniques du Nouvel Ordre Mondial. Et donc, c'est là que j'ai commencé, je connaissais rien à la question au Proche-Orient, quoi. Et donc, j'ai interviewé un tas de gens, des Irakiens, des Palestiniens, des Tunisiens, enfin, des Nord-Africains, même des musulmans bosniaques, bon, etc. Bah, bon, et c'est là que j'ai découvert un monde que j'ignorais complètement, quoi. Et c'est là que je me suis intéressé à la cause palestinienne, si on peut dire, à la Palestine. Et c'est à ce moment-là que j'ai assez. En conclusion de cette activité, que j'ai rédigé un bouquin qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, Ordre mondial et.
Micronationalisme.
Et je ne sais plus.
Alors, attendez, j'en remets tout, c'est déjà un trou, moi aussi. On va retrouver.
Micronationalisme et. Non, c'est.
Alors, attends, je vais l'avoir sous les yeux dans 30 secondes, enfin, mais effectivement, c'est en fait, tu introduis ton livre en disant, c'est une question quand même assez importante. C'est la naissance d'un État. Israël est la naissance d'un État en 1948. Oui. Et c'est un laboratoire, quasiment, pour examiner d'un point de vue anarchiste comment se constitue un État.
Alors, je pose la question. C'est bizarre que le mouvement anarchiste ne se soit pas intéressé plus qu'il ne l'a fait, c'est-à-dire très peu, à l'observation de la naissance d'un État, pas ex nihilo, mais quasiment, quoi. Et l'une des deux théories de l'État anarchiste, c'est que l'État est issu de la violence. Et là, on avait un exemple parfait d'observation, quoi, de constitution d'un État par la violence. La violence la plus extrême, même. C'est ce que dit Bakounine, comment. Sauf les libertaires anglais, parce que ils étaient plus directement concernés, puisque la Palestine avait été l'Angleterre avait été la puissance mandataire. Bon, donc je me suis intéressé à ça, quoi. Puis de fil en aiguille, avec des copains, on a créé une association Justice et Paix en Palestine, etc. Enfin bon, avec des copains palestiniens.
Alors, juste une chose, parce que bon, moi je n'ai pas fait de recherche sur la création de l'État d'Israël. Est-ce que tu penses que l'indifférence, alors tu parles des libertaires, des anarchistes en France ou francophones, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un tropisme plutôt pro-israélien également? Alors, parce que je te dis ça parce que un de mes réflexes en tant que militant ou un petit peu historien sur les bords, après le 7 octobre, même si je l'avais déjà fait sur mon site, j'avais déjà, il y a quelques années, retranscrit des textes de marxistes hétérodoxes et de libertaires sur le conflit israélo-palestinien, donc toujours dans une optique non-nationaliste ou antinationaliste, internationaliste, etc. J'ai repris ça de plus belle à partir d'octobre, en fouinant un petit peu, en cherchant des textes où justement il y avait des volontés de converger. Et donc j'ai parcouru un peu, alors ça veut dire qu'il y a sans doute plein de lacunes et des choses qui m'échappent, mais on va trouver des textes où je suis tombé parfois sur des textes qui étaient plutôt élogieux, ou plutôt, comment dirais-je, qui regardaient avec bienveillance l'expérience israélienne, alors pas forcément l'État d'Israël en tant que tel, mais c'était plutôt l'expérience des kibbutz, et qui pouvait justifier une sorte de sympathie de la part de libertaires, mais aussi de la part, on retrouve des textes hein, jusque dans les années 60, chez les marxistes hétérodoxes, pour voir, bon, est-ce qu'on y pratique vraiment l'autogestion, est-ce que c'est une utopie qu'on peut éventuellement soutenir ou pas.
Bah, moi-même, quand j'avais 15 ans, j'étais fasciné par les kibbutz. Je trouvais ça vachement bien. On vivait ensemble, tout ça, on travaillait ensemble. C'était Yukaidi, Yukaida. C'est sympa, quoi. Et ce mythe du kibbutz a imprégné une grande partie de la gauche française.
Oui, tout à fait.
Et en particulier le mouvement anarchiste. Peut-être pas totalement, mais dans les années 50-60, il est certain qu'il y avait une réelle sympathie. Et c'était l'observation des kibbutz qui produisait cette sympathie, quoi. Ça n'allait pas plus loin, on pensait pas du tout aux Palestiniens, ils étaient passés à la trappe.
C'est exactement ce à quoi je voulais en venir.
Je dirais que c'est pas de leur faute, si, parce qu'ils auraient pu, les camarades de l'époque auraient pu creuser un peu plus qu'ils ne l'ont fait, quoi. Mais bon, ben c'est comme ça. Bon. Mmh. Et c'est dans les années 70 que ça a commencé à changer, quoi. Quand il y a eu un mouvement anti-impérialiste qui a commencé à émerger réellement, quoi.
Oui, quand le mouvement national palestinien s'affirme également à travers ses actions, etc. Après la guerre de 67. Bon, là encore, je parle en non-spécialiste, mais en étant intéressé également par le sujet, on voit qu'il y a un basculement qui est assez net dans les différentes familles politiques, et où effectivement le sujet palestinien apparaît, les Arabes qui étaient absents étrangement, ils faisaient même pas partie du décor, à la limite, ils ressurgissent, et puis on commence à avoir on passe d'un soutien, je dirais, inconditionnel, d'un soutien conditionnel à un autre, finalement. Mmh. C'est ça aussi qui est assez troublant, mais...
J'ai une amie qui a à peu près mon âge, qui n'était pas juive, mais qui s'était passionnée pour les kibbutz, et elle a vécu des années dans un kibbutz en Israël, et en intégrant l'idéologie du kibbutz et tout ça, quoi. Bon, et puis un jour, en se baladant dans la campagne environnante, elle trébuche sur un caillou, une grosse pierre, et puis elle débroussaille un peu, puis de fil en aiguille, elle s'aperçoit qu'il y avait plusieurs pierres, puis d'autres, puis beaucoup de pierres, au ras du sol, quoi. Et elle a demandé à des vieux du kibbutz, ils voulaient pas répondre au début, puis finalement, en les harcelant, elle a fini par apprendre qu'il y avait un village, là, qui avait été rasé.
Un village palestinien,
qui avait été rasé. Et les vieux, ils voulaient pas trop en parler, quoi. Et y a une citation du général Dayan qui est extraordinaire. Il s'adresse à des étudiants d'un institut de technologie et il dit « Messieurs, il n'y a pas un kibbutz en Israël qui n'est construit sur un village palestinien qui a été détruit. » Et c'est comme ça. Bon.
Et il va même plus loin, parce que j'ai lu cette citation dans ton bouquin.
Je la connais pas par cœur.
Ne cherchez même pas dans les livres de géographie, parce que les livres eux-mêmes ont disparu.
Oui. Voilà. Donc...
Et ça date de 69, il dit ça. Il faut rappeler que le général Moshe Dayan, c'était le chef d'état-major de l'armée israélienne à l'époque, et c'est lui qui est rentré en juin 67, le premier avec ses troupes, dans Jérusalem Est, en fait, qui venait d'être occupé après la guerre des six jours.
Dans les camps palestiniens, les gens se regroupent en fonction du village d'origine, même à la troisième génération, c'est encore les villages de ceci ou de cela, ils sont encore dans Ils n'ont pas abandonné leurs racines, quoi. C'est incroyable, c'est étonnant, quoi.
Oui, il y a cette mémoire qui perdure et qui se transmet de génération en génération.
Au moment de la guerre du Golfe, j'avais rencontré un vieux monsieur, un juif israélien, mais qui était en Israël, en Palestine, avant la création de l'État. Et il avait fait une thèse qu'il n'a jamais réussi à faire publier. Et dans cette thèse, il s'étend très largement sur la volonté de transférer les Palestiniens ailleurs, quoi. Des autorités israéliennes, quoi. Et c'est une obsession, quoi. Il y a une telle rapacité à récupérer des terres. Et si possible des terres sans population, et cette population, faut la virer. Alors il faut l'envoyer en Jordanie, il faut l'envoyer en Égypte, au Liban, hein, et il faut se débarrasser de cette population. Et il analyse ça, et il cite d'innombrables articles de la presse israélienne qui sont pas contestables, quoi, où c'est hallucinant, quoi. C'est une obsession, quoi. Et avec ce qui se passe à Gaza actuellement, ça va être ça. Ils vont vouloir, ils vont vouloir récupérer le territoire de Gaza pour installer des colonies juives.
J'ai retrouvé la citation de Moshe Dayan. Nous sommes arrivés ici dans un pays peuplé d'Arabes et nous construisons ici un État hébreu juif. À la place des villages arabes, nous avons établi des villages juifs. Vous ne connaissez même pas le nom de ces villages et je ne vous le reproche pas car les livres de géographie correspondants n'existent plus. Et non seulement les livres, mais les villages n'existent plus. Il n'y a pas une seule implantation de colons qui n'a été faite sur les lieux d'un ex-village arabe. Moshe Dayan, s'adressant aux étudiants de l'Institut de technologie israélien, et c'est publié dans le journal Haaretz, 4 avril 1969. Ouais. Je me souviens aussi d'avoir lu une citation de Vladimir Jabotinsky. Alors Vladimir Jabotinsky, c'est l'aile droite, c'est un des inspirateurs du Likoud, voilà. Et qui disait, mais très clairement et très ouvertement, sans aucune... voilà, on va arriver dans un pays peuplé d'Arabes, ils vont vouloir se défendre, et c'est normal, et on va se battre contre eux.
Mmh. Bah lui, il dit les choses clairement. Voilà. Il a au moins cet avantage, on met à son crédit qu'il dit les choses, quoi, exactement comme elles se sont passées. Il donne les intentions, le projet sioniste, clairement, quoi. Ils vont se battre, on va gagner, puis c'est tout, on va les virer.
Alors, une petite question que je voudrais te poser, René. Il y a eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, un mouvement juif ouvrier internationaliste, le mouvement de Bund, qui avait des positions clairement antisionistes, qui s'opposait à Herzl et qui voulait donc mener une lutte révolutionnaire en Europe, en Pologne, en Lituanie, principalement en Russie. La Deuxième Guerre mondiale a fait que ce mouvement a disparu corps et biens. Tous les militants ont été arrêtés, déportés, assassinés dans les camps de concentration. Mais il y avait quand même cette mémoire du Bund qui est restée, puisqu'il y avait, je crois, une représentation à Paris, c'était près du canal Saint-Martin, il me semble. Des camarades m'en ont un peu parlé. Il n'y avait pas de relation entre le milieu libertaire et ce Bund à l'époque.
Franchement, je ne sais pas.
On ne sait pas. Il n'y a pas eu de lien.
Je sais qu'il y avait un mouvement anarchiste juif.
Ouais.
En Russie.
Mmh. Oui. Anarchiste et juif.
Oui. Ouais. Des juifs qui s'organisaient. Des juifs qui s'organisaient en tant qu'anarchistes, ou réciproquement. Enfin.
Oui. D'accord.
Pour le reste, j'avoue mon ignorance sur la question.
La question du Bund, très bien. Ouais. Et donc, cette explosion du 7 octobre, comment toi tu l'as analysé au moment où ça s'est passé? Quelle a été ta réaction à ce moment-là?
Je ne sais pas, c'est indescriptible.
Ouais.
C'est... je crois qu'une des premières réactions, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est les Palestiniens vont payer cher.
Oui.
C'est vérifié.
Malheureusement, ça s'est vérifié.
Ça fait quand même pas mal d'années que je m'intéresse à la politique, quoi, disons, et que je suis pas naïf non plus. Mais il y a une chose qui m'a semblé curieuse, enfin, je fais pas dans le complotisme, mais tout ça arrivait à un moment où il y avait d'énormes manifestations en Israël contre Netanyahou, mais aussi de grosses manifestations dans la bande de Gaza contre le Hamas.
Oui, je voulais justement
c'est concomitant, quoi. Est-ce que un rapport, je sais pas, c'est probablement un hasard, l'évolution des choses elles-mêmes, objectives, quoi, qui fait que ces deux types de réactions contre Netanyahou et le Hamas devaient arriver à ce moment-là, quoi. Mmh.
Puis aussi un agenda international où, de fait, il y a une reconnaissance ou une normalisation des relations entre l'État d'Israël et des États arabes. Et effectivement, où la question palestinienne passe un peu à la trappe. Oui. Et il y a un calcul, il y a un pari, hein, c'est peut-être le pari le plus dévastateur et le plus calamiteux du point de vue de la population palestinienne et gazaoui qui paye le prix fort. Mais oui, il ne faut pas oublier que les acteurs, les intervenants font aussi des calculs et des paris, comme ça, qui peuvent nous paraître un peu aberrants, mais ils ont également un agenda. Ils essaient d'exister aussi en tant que groupe politique qui prétend diriger aussi un État ou avoir du pouvoir sur une population, aussi désemparée soit-elle.
Il y a une chose dont on ne parle pas, c'est curieux d'ailleurs, ou très, très très peu, c'est que il y a du gaz au large de Gaza. Oui. C'est sans genoux. Mmh. Bon. Mmh. Et il y a du gaz, y compris dans la portion de mer, de Méditerranée, qui normalement correspond au large de la bande de Gaza elle-même, quoi. Mais il y a en fait d'énormes réserves de pétrole, ce qui correspondent au large d'Israël, si tu veux, mais également une petite portion qui correspond au large dans les eaux territoriales, si je peux dire, de Gaza. Et ces réserves de gaz, c'est le gouvernement israélien qui contrôle tout. Et alors c'est assez compliqué parce que il devait en revenir, la gestion ou les revenus de cette petite portion de réserve de gaz devait revenir aux dirigeants de la bande de Gaza, c'est-à-dire le Hamas. Et en fait, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas tout en tête, c'est assez compliqué, mais en fait, Netanyahou a fait en sorte que ce ne soit pas le Hamas qui récupère les royalties du pétrole, du gaz, mais l'autorité palestinienne, qui n'est pas dans la bande de Gaza, quoi. Oui. Et l'attentat du 7 octobre tombe à ce moment-là aussi,
Il y a des tractations, tu veux dire.
Il y avait des tractations, ouais. Le Hamas a appris qu'il ne toucherait pas grand-chose, quoi.
Donc ça viendrait aussi peut-être...
Je ne sais pas, il y a une accumulation de faits dont pas grand monde ne parle d'ailleurs, mais qui sont concomitants. Je dis pas autre chose. Quoi.
Non, voilà, justement, après, il faut peut-être pas aller trop loin dans l'explication, la causalité, parce que de fait, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux qui sont internes aux Palestiniens dans la rivalité, dans la course du pouvoir. Il y a un agenda aussi palestinien dans le fait de pas disparaître, on va dire, de l'agenda international. Il y a les tensions permanentes avec la puissance occupante qui est l'État d'Israël, et aussi il y a les relations internationales qui sont là-dedans. Il y a des acteurs aussi qui ont leur carte à jouer à travers la question palestinienne, ce qui n'est pas nouveau non plus, hein, de toutes les façons. Donc là aussi, j'ai tendance à dire qu'il est à la fois trop tôt et trop tard aussi pour analyser la question,
oui,
parce qu'il y a des choses qui nous échappent nécessairement. Et ce sur quoi on a prise en réalité, c'est, me semble-t-il, moi je parle pour moi, c'est comment est-ce qu'on exprime des principes et une solidarité, et à travers quels moyens, et à travers nos grilles de lecture également.
Tout à l'heure, René, tu as évoqué les manifestations à Gaza contre le Hamas. Il y a une information aussi qui n'a pas été tout aussi diffusée qu'elle aurait dû l'être. Un sondage qui avait été publié le 6 octobre, alors là c'est vraiment un pur hasard, hein. Il n'y a rien de concomitant, effectué par un institut qui s'appelle Arab Barometer, qui est un institut d'enquête qui fait des enquêtes d'opinion dans une dizaine de pays arabes, dans 10 pays arabes plus les territoires palestiniens, Gaza et Cisjordanie, et ils font des enquêtes régulières tous les ans sur des tas de sujets. Et là, ils avaient fait une enquête ciblée sur Gaza et, pardon pour le mauvais jeu de mots, ciblée. Ils avaient fait une enquête sur Gaza et la Cisjordanie sur la perception qu'avaient les Palestiniens de leurs dirigeants politiques. Et l'un des principaux résultats de cette enquête, c'est que 67% de la population palestinienne qui a répondu à cette enquête rejette complètement ou en bonne partie le Hamas.
C'était paru dans la presse américaine,
dans Foreign Affairs. Ouais. Et donc tu as souligné aussi les manifestations, et la majorité des Palestiniens interrogés par cet institut de sondage étaient, contrairement au Hamas, pour une solution à deux États. C'est-à-dire qu'en gros, les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, on veut la paix, on veut qu'on vive tranquille. Voilà. Et cette information-là, qui aurait dû être mise en avant, qui aurait dû être certainement répétée pour bien expliquer le fait qu'on ne peut pas confondre, comme on ne confond pas le peuple israélien avec Netanyahou, on ne confond pas le peuple palestinien avec le Hamas.
Alors, une petite remarque, je laisserai la parole après, c'est que c'est un sondage.
Oui.
Pourquoi les sondages ?
Bien sûr.
Il faut toujours les prendre avec des pincettes. C'est un baromètre, tout au plus. Ça peut donner une indication. Et c'est un instant T.
Oui.
Aujourd'hui, je pense que la situation
a
beaucoup évolué. La situation a beaucoup évolué. qu'on le veuille ou non, hein, que ça nous plaise ou non, hein, c'est comme ça.
Et d'autre côté, c'est pareil, non, non, côté israélien.
Justement, il faut vraiment mesurer, ouais, à mon avis, le changement dans et le basculement auquel on assiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de rapprochement, de contact, etc. Néanmoins, je peux citer autre chose. Il y a un documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a quelques jours, qu'on peut voir en replay, en rediffusion sur le site d'Arte, de la chaîne ou sur YouTube. Ça s'appelle Hamas, la fabrique d'un monstre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et effectivement, hein, la journaliste est partie poser des questions, parfois de manière un peu insistante, un peu gênante, comme disent les jeunes, en demandant, bon, alors vous soutenez le Hamas ou pas, vous les soutenez? Bah, de fait, à un moment donné, dans cette situation de polarisation, même si les personnes n'avaient pas de sympathie particulière, même si peut-être elles avaient participé à des manifestations contre la messe, dans cette conjoncture de guerre, de bombardement et autres, quand on a un mouvement qui émerge, il va y avoir une sympathie ou une cohésion qui va s'exprimer. Maintenant, est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Comment ça va évoluer, pardon? On n'en sait rien non plus. Mais si tu reviens à la situation d'avant le 7 octobre, et ça c'est peut-être ce que tu voulais dire, hein, excuse-moi. Quand tu dis que c'est une information qui aurait dû être relayée, mais par qui? Tu veux dire par nos compagnons, nos camarades, des gens qui s'intéressent à la situation? Parce que moi, ça fait quand même, là aussi, quelques années, les fois où j'ai pu prendre position ou écrire des choses, que ça aille plus ou non, ce que j'ai pu reprocher à des gens qui pouvaient être, justement, avec lesquels je pouvais avoir des liens de camaraderie dans des luttes, quelles qu'elles soient, c'était cet alignement, en fait, sur les organisations. Ouais. Donc, au nom de la solidarité aux Palestiniens opprimés, oppressés, ce que je ne remets pas du tout en cause, eh bien, ça glissait vers un soutien inconditionnel aux organisations qui, et je ne reviens pas là-dessus, sont réactionnaires, ne défendent pas un agenda qui est compatible au nôtre, et ce n'est pas parce qu'ils résistent sur un plan, c'est-à-dire ils résistent à l'occupation israélienne, aux attaques, etc., qu'on doit pour autant, nous, en tant qu'internationalistes, révolutionnaires, libertaires, que sais-je encore, nous associer d'une manière ou une autre à ces organisations, d'accord? Et là aussi, je pense que dans la manière dont on pose les débats, surtout avec beaucoup d'émotions, et cette émotion, moi, je la comprends, je la partage. Néanmoins, j'essaie autant que possible, même si je n'y arrive pas toujours, à garder la tête froide. Et moi, ma solidarité, et ça fait des années que je le dis, elle est avec cette jeunesse palestinienne, et aussi cette jeunesse israélienne, qui conteste, en fait, avec des degrés divers, évidemment, eh bien, leurs pouvoirs respectifs, leurs tyrans respectifs, leurs oppresseurs respectifs. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est sur ce terrain-là qu'on doit aller, même si ce n'est pas le plus évident.
Aux écolières et aux écoliers qui, de 6 à 18 ans, passent en moyenne de 6 à 8 heures par jour le cul vissé sur un banc pour entrer plus tard dans ce qu'on appelle la vie active. Oh ben, ils doivent y arriver avec un bon tournevis. Il était si con, le premier de la classe, que tout le monde voulait être le dernier. Ça fait qu'il y avait un premier de classe et tout de suite après 43 derniers. Chacun déployait son intelligence pour être noté au-dessous de zéro, pour ne pas choper le prix d'excellence qui récompenserait ce triste charlot. Il était si con, le premier de la classe, c'était pas de sa faute s'il était le premier. Toutes les conneries enseignées en classe, il les avalait comme une tasse de thé. Avant que le maître ne nous questionne, il levait la main en disant monsieur, monsieur. Et toutes les fois la réponse était bonne. Je me disais, ce mec-là, c'est peut-être Dieu. Il était si con, le premier de la classe, qu'effectivement c'était peut-être Dieu. Raison de plus pour ne pas suivre la trace du jeune phénomène adoré des vieux. Il nous faisait peur avec sa mémoire, qui dans les écoles passe pour du talent. la tête engorgée par les dates d'histoire. Je l'ai revu plus tard au jeu des mille francs. Il était si con, le premier de la classe, qu'on faisait tous preuve d'imagination. Pour le distancer, pour qu'il nous dépasse, on a déployé des tonnes d'inventions. Henri IV est mort au cours d'une partouze. C'est à Waterloo que Jeanne d'Arc fut pendue. 6 fois 8, 24 et je retiens 12. La Loire prend sa source dans le trou de mon cul. T'es si con, t'es le premier de la classe, qu'il était le seul à ne pas se marrer. Même l'instituteur faisait des grimaces pour se retenir de nous imiter. Brave instituteur, il se rendit compte que la joie de vivre était un grand art. Un jour il l'a dit sans en avoir honte. Il fut renvoyé avant nous, peinard. Si con, le premier de la classe, que tout le monde voulait être le dernier. Ça fait qu'il y avait un premier de classe, et tout de suite après 43 derniers. Je vois, messieurs, dames, vos yeux qui s'affolent. Voulez-vous savoir ce qu'il en advint? Un beau jour, on vit sortir de l'école 43 artistes et Giscard d'Estaing.
Toujours sur Radio Libertaire, la voix sonore du Némat de la Fédération anarchiste, nous sommes avec Nedjib Sidi Moussa et René Berthier pour discuter et essayer d'avancer dans notre compréhension de ce qui se passe à Gaza, dans cette guerre entre Israël et qu'Israël mène sur la population gazaoui. Après donc les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Juste avant la pause musicale, on avait abordé cette question de quelle est la représentativité finalement. Est-ce qu'on peut parler d'une représentativité? Quelles sont les forces en présence au sein du mouvement palestinien? On a bien vu qu'il y avait ce Hamas qui avait été Tu en parles, René, comment ce Hamas s'est constitué comment il a été favorisé par les gouvernements israéliens.
C'est pas un secret, je veux dire.
Bien sûr, on en parle de manière.
C'est un mouvement qui a été à l'origine, favorisé par les autorités israéliennes pour contrebalancer l'influence de l'OLP, du Fatah. C'est diviser pour régner, c'est une technique parfaitement banale, sauf qu'ils ont créé un monstre, ou ils ont suscité la création d'un monstre.
Faut bien rappeler, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement qui, on va pas refaire l'historique du frère musulman, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, etc. Mais ça nous mènera tout là. Mais c'est quand même à l'origine un mouvement politico-religieux né en Égypte à la fin des années 20 et qui a un agenda, il y a un programme très particulier. Tu rappelais dans ton ouvrage que les frères musulmans avaient soutenu la répression menée par Hussein de Jordanie au moment de Septembre Noir en 70, lorsque Hussein de Jordanie va perpétrer une répression féroce contre le mouvement.
C'était en 74, je crois.
70, septembre 70, septembre, ce qu'on a appelé Septembre Noir par la suite. Et tu rappelles aussi que ce mouvement islamiste, le Hamas, a été donc créé en 87 et en 88 il publie sa charte et il va se mettre tout de suite en opposition avec le Fatah et les composantes, on va dire, laïques de gauche de l'OLP pour miner toute tentative de négociation. Ils refusent toute négociation. Leur but, c'est l'éradication, la destruction de l'État d'Israël. Et au plus loin, c'est l'instauration d'un État islamique. Alors c'est d'autant plus curieux que Saïd Qutb, l'un des principaux idéologues du mouvement, qui a été pendu sur ordre de Nasser en 1966, se désintéresse complètement de la question nationale. Pour lui, c'est même un blasphème de s'intéresser à ces questions.
Le fondamentalisme islamique, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, mais le fondamentalisme islamique, à l'origine, ne considérait pas comme pertinent la question nationale. Ce qui comptait, c'était la communauté musulmane.
Quoi. Restaurer le califat aussi. Ouais,
c'était restaurer la question nationale, c'était, enfin, créer des États nationaux, c'était une hérésie, quoi, si je peux dire. Mais après, ils ont changé. Bon.
Mais juste une chose, en fait, parce que là encore, le documentaire le montre assez bien. Et puis il y a un vétéran des services israéliens qui explique justement ce jeu très machiavélique, en fait, qui a consisté à soutenir cette force réactionnaire et qui ensuite a pris des proportions qui a sans doute dépassé les architectes qui ont poussé à cette évolution. En réalité, il y a eu le même jeu de la part des gouvernements arabes,
oui, bien sûr,
pour contrer précisément les forces laïques, les forces de gauche, et puis ils ont créé les monstres qui ont causé les guerres civiles, comme on l'a vu malheureusement autour du bassin méditerranéen. Donc il n'y a pas de spécificité israélienne pour le coup. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait justement remettre en perspective, mais comme la guerre aussi qui se passe en ce moment. Il y a aussi des choses à voir avec la manière dont des tyrans ont également écrasé leur peuple, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de l'éradication. C'est aussi l'éradication, c'est un mot qu'on entendait malheureusement dans les années 90
en Algérie,
exactement, et au prix de combien de morts, de destructions, de personnes exilées, folles, et que sais-je encore.
Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les autorités israéliennes ne tenaient pas du tout à négocier avec les Palestiniens. Il y a Netanyahou, un jour, il a dit que Faisal Husseini était plus dangereux que Yasser Arafat, à l'époque où Arafat avait l'image du terroriste, quoi. Faisal Husseini, c'était un Palestinien d'intérieur, modéré, qui était favorable à la négociation. Et en disant que ce gars-là, ce modéré, était plus dangereux qu'Arafat, il exprimait de manière extrêmement claire que la négociation n'était pas au programme, quoi.
Oui.
Et le vieux monsieur juif dont je parlais tout à l'heure, Moïse Saltiel, il s'appelait, et il disait qu'en fait, s'il y a la paix en Israël, ça va laisser libre cours à toutes les contradictions internes de la société, et ça va provoquer une catastrophe, quoi. Et le fait de... Alors, je le laisse responsable de ses propos, mais ça laisse entendre que la guerre, l'état de guerre permanent, sinon la guerre elle-même, l'état de guerre permanent est une nécessité pour maintenir une certaine cohésion sociale dans une société qui est extrêmement divisée en communauté parfois opposée, quoi.
Là encore, un nouvel éclairage sur les contradictions internes à la société israélienne, et qui sont aussi présentes, ces contradictions, au sein de la société palestinienne. Tu parlais tout à l'heure des perspectives éventuelles de recolonisation de Gaza. On voit donc les destructions massives qui sont opérées. On a vu des images donc du nord de la bande de Gaza où pratiquement tout était détruit, rasé, aplani. Il y a même un ministre d'extrême droite qui a dit que Gaza n'avait jamais été aussi beau. Voilà, c'est ce genre de... Oui, bien sûr, des propos absolument effrayants tenus par des membres de l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui en Israël, à Tel Aviv. Il y a aussi, pendant que cette guerre se déroule, il y a l'accélération et l'aggravation même des conditions de vie des Palestiniens en Cisjordanie, où la colonisation, les colons prennent une ampleur terrible, avec des vraies batailles.
La colonisation continue en Cisjordanie.
Et elle s'accélère encore. On l'a vu, des distributions d'armes qui sont données.
Oui, l'année écoulée est une des plus meurtrières, en fait, pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis plus d'une décennie, si je ne me trompe pas. Mais Justement, alors il s'agit pas d'être de jouer aux équilibristes, mais puisqu'on a attiré l'attention sur sur l'évolution du paysage de la résistance, ou en tout cas du paysage politique palestinien, avec aujourd'hui une force qui prend le leadership et pour lesquelles moi je n'ai pas beaucoup de sympathie. Encore une fois, j'insiste bien pour ceux qui peut-être aurait une comment dirais-je ne voudrait pas écouter ou ce que j'ai à dire ou ce que d'autres ont à dire.
Je pense qu'autour de cette table on est tous d'accord avec toi, j'opère bien une
distinction très claire entre ma solidarité, je dirais même mon affection avec les Palestiniens et les civils qui sont victimes des bombardements, avec une solidarité et un soutien de longue date autour de la cause palestinienne, mais sans être aveugle non plus sur les possibilités de convergence, de dialogue et de contact avec également les Israéliens favorables à la paix et aussi à une transformation de la société et de la région. Hein, essayons quand même de garder, de rester utopiste. Mais en fait, justement, cette évolution du paysage palestinien, il faut la mettre en regard avec celle aussi du paysage politique israélien. Puisqu'on a vu, hein, de part et d'autre, des deux côtés de la barrière, même s'il n'y a pas véritablement une seule barrière, il y en a plusieurs, la montée en puissance, eh bien, des nationalismes religieux, d'un intégrisme, d'une volonté, si ce n'est d'annihiler l'autre, en tout cas de le nier dans son existence même, et ce qui donne justement libre cours à des déclarations aussi provocatrices que celle des ministres d'extrême droite, d'extrême droite religieuse, hein, qui font partie aujourd'hui du gouvernement israélien et contre lequel effectivement entre autres, hein, s'était mobilisé il y a quelques mois maintenant une partie de la population israélienne. Quoi qu'on puisse penser aussi de cette mobilisation, hein, que tu avais évoquée tout à l'heure, moi je sais que j'étais attentif à des critiques. Certains disaient que bon, d'accord, c'est vrai, il y a une mobilisation de la part de pans entiers de la société israélienne. Mais ils ne disent rien de la situation des Palestiniens, ils ne disent rien de la colonisation. C'est vrai,
oui.
C'est vrai. Genre là-dessus, il faut être juste, il faut reconnaître les choses. Bon, rien ne dit que les choses n'auraient pas évolué autrement. Maintenant, c'est fini, c'est trop tard. Trop tard pour le moment pour en parler. Néanmoins, je pense qu'un des ingrédients, un des facteurs aggravants de la situation, c'est effectivement le fait qu'on a aujourd'hui, de part et d'autre, du côté palestinien et du côté israélien, des forces nationalistes, religieuses, intégristes, complètement, qui rejettent toute forme de dialogue, qui ont pris le dessus, et c'est aussi l'effacement de ce qu'a pu être, alors avec plein de réserves, hein, là aussi, il faudra peut-être revenir sur les illusions qu'ont pu avoir les militants de la gauche internationale sur justement ce qu'a été la gauche palestinienne et ce qu'a été aussi la gauche israélienne, qui aujourd'hui ne pèse quasiment plus rien du point de vue des organisations, du point de vue électoral et du point de vue de la mobilisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas une sensibilité, qu'il ne reste pas des individus, qu'il ne reste pas des collectifs, mais il ne pèse malheureusement plus grand-chose en fait sur la scène.
C'est ce que disait le journaliste Gideon Levy, qui est un journaliste à Haaretz, hein, qui depuis des années et des années maintenant porte la voix donc de cette gauche qui est contre l'occupation, contre la colonisation. Et dans une interview récente donnée à un journaliste anglais, il expliquait que cette gauche avait quasiment disparu, quoi, qu'il ne la voyait plus, à son grand désespoir. Parallèlement, on a l'impression aujourd'hui que les Palestiniens sont pris entre soit les réactionnaires du Hamas et le gouvernement corrompu et complètement désavoué de Mahmoud Abbas, qui est un vieux monsieur certainement malade, qui n'a quasiment plus aucune reconnaissance en dehors de son cercle propre. On a parlé à un moment donné, c'est passé dans quelques canaux d'information, d'un militant palestinien, Barghouti, alors je ne me rappelle plus de son prénom, Marwan Barghouti, qui est emprisonné depuis une vingtaine d'années, comme étant peut-être le joker, voilà, ça semble assez... les Israéliens ne veulent pas le lâcher, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il semblerait avoir une certaine popularité.
Oui, parce qu'il a une aura, il a une réputation d'intégrité, il a réussi aussi à élaborer, là aussi si ma mémoire est bonne, une plateforme dans laquelle se retrouver tous les détenus palestiniens des différentes oui. composantes politiques. Oui. Donc, on le compare aussi, ses soutiens le comparent aussi au Mandela palestinien.
Oui. Oui.
Et effectivement, c'est un symbole trop fort. Mm-hmm. C'est lui qui, effectivement, enfin lui, encore une fois, hein, on peut aussi prêter des intentions à des individus, mais c'est surtout des dynamiques collectives qui éventuellement pourraient résoudre la situation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait incarner, effectivement, un compromis national palestinien avec une sortie de crise ou en tout cas un scénario qui ne soit pas aussi catastrophique que celui ouais. qu'on vit aujourd'hui. Donc, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il incarne, effectivement, c'est un danger trop important mm-hmm. pour le gouvernement israélien et plus encore pour ce gouvernement israélien-là. Donc malheureusement, on n'est pas prêt de le voir sortir de prison dans ces circonstances-là. Mais j'entends tout à fait que des gens dont on peut être plus ou moins proche eh bien, expriment une solidarité, relaient des campagnes pour sa libération et surtout, mais je pense que c'est le cas pour tous les détenus en fait, ne pas oublier qu'ils existent, ne pas oublier qu'ils sont là et faire en sorte que non seulement ils sortent de prison mais qu'il n'y ait plus de prison tout court.
Alors ce qu'on n'a pas beaucoup... ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'au moment de cet échange entre les otages et les prisonniers palestiniens lors de cette courte trêve de 7 jours en novembre dernier, je ne sais pas quel est le nombre exact de prisonniers palestiniens avaient été libérés contre les otages, mais dans le même temps, les Israéliens ont fait autant de prisonniers qui sont venus reprendre les cases vides, donc c'est un malheureux, enfin un jeu à somme nulle, enfin cette la condition des détenus palestiniens
c'est même pas à somme nulle, je veux dire là, c'est encore une fois c'est complètement en la défaveur, la situation oui. est complètement en la défaveur des Palestiniens, donc là c'est perdant en réalité, c'est terrible quand même, genre quand on y pense, quand on y songe, là sans rentrer dans les débats techniques avec la démarche de l'Afrique du Sud à la CPI et l'accusation de crimes de génocide.
La Cour pénale internationale, voilà.
Il
oui.
Y a une situation humanitaire, sanitaire qui est affreuse. Il y aura peut-être, ça c'est ce que je dis dans la presse internationale, il y aura peut-être plus de morts si la situation ne change pas. Encore une fois, je veux dire, rien n'est figé, mais malheureusement,
la situation humanitaire.
Ouais. Elle est catastrophique. Peut-être qu'il y aura plus de morts de maladies, plus de. Que de morts sous les bombes. C'est ça aussi qui est terrible. Mais encore une fois, ça veut dire que là où on est, là où les collectifs interviennent, il faut absolument mettre un terme à cette guerre. Il faut sauver les vies.
On a une. Alors là, je reviens un petit peu à notre point de départ, c'est-à-dire quel regard nous, en tant que libertaires, anarchistes, internationalistes et antiracistes, on peut avoir sur cette situation. J'en parlais avec toi, René, en préparant cette émission. Les grilles de lecture les plus standards, les plus banales de grilles de lecture lutte des classes, idéologique, elles fonctionnent pas, comme tu le soulignes bien dans ton travail, c'est vraiment des nationalismes, et là c'est des choses qui nous échappent, enfin comment on peut sculptiner à ça, c'est-à-dire que on parle d'une solution à deux États. Est-ce que c'est ça qu'on doit soutenir, mais en se mettant en porte-à-faux?
Sur la question de la solution à deux États, dont qui revient un peu comme de temps en temps, comme la baleine blanche, il y a un ancien ministre ou vice-premier ministre, je ne sais plus, israélien, qui s'appelait Ehud Olmert, je crois.
Il a été premier ministre, oui. C'est lui qui avait lancé l'offensive en 2006 au Liban.
Il disait, mais la solution à deux États, c'est plus possible, parce que les colonies israéliennes occupent tellement de territoire qu'il n'y a plus aucune possibilité de créer un État, un deuxième État dans le peu qui reste aux Palestiniens, quoi. Et il dit, cette perspective m'effraie. Enfin, il paniquait à l'idée que un jour, les Palestiniens on viendrait à demander la citoyenneté.
Oui.
Et c'est marrant parce que c'est la conclusion de mon bouquin qui était paru bien avant, qui est paru en 93, où j'essaye de voir, d'imaginer les perspectives. Et je conclue mon bouquin en disant que en voulant grappiller à tout prix le maximum de territoire et en refusant aux Palestiniens le droit d'avoir le moindre petit territoire à eux, quoi, si je peux dire. En faisant ça, ils vont obliger les Palestiniens à se dire, bah, puisque c'est comme ça, on n'aura pas d'État, on laisse tomber le projet d'État, mais alors on demande la citoyenneté. Et dans ce cas-là, si ça arrive, et je pense que ça, un jour ça va arriver, et beaucoup de dirigeants israéliens le savent, j'ai entendu des documents, mais il y a plusieurs années, avec des... En général, les militaires, quand ils parlent, ils disent des choses intéressantes. Et des militaires de haut rang israéliens qui disaient que c'est ce qui va arriver, quoi. C'est une possibilité parfaitement réaliste que les Palestiniens, un jour, demandent la nationalité. Et quand une population entière réclame la nationalité, ça crée un mouvement irrésistible. Parce que c'est une réclamation qui ne peut pas être contesté, qui est forcément légitime aux yeux de l'opinion mondiale, quoi. Genre, nous, on veut être israélien ou autre chose. Enfin bon, d'après ce que des copains juifs m'ont dit, et beaucoup d'Israéliens d'Israël, quoi, sont conscients de ce fait, quoi. Et, oui. Et même chez les Palestiniens, l'idée commence à germer.
De fait, de par justement la colonisation, le fait qu'il n'y ait pas de continuité territoriale envisageable pour un éventuel État palestinien, évidemment que ça rend compliqué l'existence de deux États. Ça, c'est surtout... Si on prend une carte, si on voit les échelles, c'est un territoire qui est très petit en réalité, ce qui aujourd'hui correspond à Israël et à l'autorité palestinienne. C'est vrai que les mots d'ordre qui étaient lancés, notamment du côté des marxistes, c'était, et pas que, hein, mais du côté de la gauche aujourd'hui, c'est celui d'un seul État, démocratique, laïque, sur tout le territoire historique de la Palestine. Voilà, il y a des personnes qui défendent cette perspective-là. Il y en a d'autres qui défendent celle de deux États, malgré l'infaisabilité. Mais en fait, on n'est que dans des scénarios où les choses sont infaisables ou impossibles ou impensables, et encore plus dans le moment actuel. Mais là aussi, je pense qu'il faut essayer de faire un effort de... Même si c'est compliqué, à commencer par les Palestiniens et pour leurs amis, de sortir de cette conjoncture dramatique. Il y a également, tu me contrediras si j'ai tort, dans les années 70, c'est le mot d'ordre de fédération, notamment au Moyen-Orient, fédération socialiste ou autre. Bon, la question, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas celle de balancer des mots d'ordre, en réalité. C'est, encore une fois, même si ça peut paraître très modeste, c'est quel principe on défend. Quand tout à l'heure tu disais qu'il y a de plus en plus, ou il y avait, je ne sais pas quel est l'esprit aujourd'hui, hein, je pense qu'il faut aussi faut prendre ses précautions, d'une aspiration à acquérir une citoyenneté ou une nationalité israélienne, hein, même s'il n'est pas...
C'est une possibilité.
Non, bien sûr. Mais j'entends ce que tu dis. C'est derrière, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Là encore, je reviens à des questions de principe. C'est l'aspiration à l'égalité et à la liberté. C'est ne pas être discriminé, pouvoir circuler, pouvoir travailler, pouvoir s'établir, essayer d'envisager un avenir. Donc, moi, je pense que nous, sans adhérer, enfin nous, je veux dire moi, allez, encore une fois, je vais être modeste et parler que pour moi, ce qu'on doit défendre dans la mesure du possible, c'est des principes de liberté de circulation, de lutte contre la discrimination, contre les expropriations, c'est là-dessus, en fait. Parce qu'après, adhérer à un projet national, à une question de nationalité, de binationalité, c'est des débats qui peuvent être très théoriques, qui peuvent être intéressants, mais je pense que ce sont d'abord les Palestiniens, les Israéliens aussi, s'ils ont la possibilité de dialoguer directement entre eux, en dehors des carcans politiciens et étatiques, c'est peut-être eux qui vont réussir à élaborer quelque chose. Et dans ce cas-là, on pourrait soutenir ou pas, accompagner ou pas. Mais nous, pour le moment, enfin moi, encore une fois, hein, de l'extérieur, de là où je suis, à Paris et ce soir en particulier, je peux que défendre des principes généraux et qui consistent à défendre la paix, tout de suite, maintenant, lutter contre les discriminations, contre l'indifférence aussi du massacre des civils, quel qu'il soit, et essayer, dans la mesure du possible, d'établir des liens directs entre Palestiniens et Israéliens, et y compris sur le terrain du travail, parce que j'entendais aussi ce que tu disais, que, effectivement, dans cet état de guerre permanent, de colonisation, d'expropriation, de terreur également, tout ce qui relèverait de la lutte des classes, en fait, éclaterait. Moi, je ne sais pas si ça éclate. Peut-être que c'est simplement relégué au second ou au troisième plan. Néanmoins, il y a toujours la question du travail, il y a toujours la question, comment dirais-je, de l'exploitation qui est là. Donc, il faut aussi peut-être essayer, avec ceux qui sont sur place, avec ceux également qui sont dans une perspective socialiste, communiste ou libertaire, essayer d'élaborer ou de dialoguer sur ce terrain-là. Parce que là aussi, je pense qu'on est un peu trop prisonnier de la propagande nationaliste, quelle qu'elle soit, de la propagande étatiste, quelle qu'elle soit, et puis aussi hein, de la part, parce que nous, on est plutôt dans nos fréquentations, on est plutôt en contact avec des gens qui ont une sympathie pro-palestinienne, mais il y a aussi une sympathie pro-palestinienne qui tient d'un tiers-mondisme qui me paraît un peu éculé, en fait, et peu fécond, peu propice, justement, à dégager des perspectives révolutionnaires. Même si, là encore, je conçois tout à fait que dans la situation actuelle, c'est peut-être être trop enthousiaste que de parler de perspectives révolutionnaires.
Non, ça, je pense pas qu'on est dans une perspective révolutionnaire.
À court terme, ni à moyen terme.
Très long terme.
Non, bien sûr.
Il y a une chose qui m'a. Tu me demandais quelle a été ma réaction après l'attentat l'action terroriste du 7 octobre. C'est la réaction de la France, de Mélenchon, quoi, disons. Et j'avais vu une de ses petites camarades députées qui, harcelée par des journalistes, refusait catégoriquement de dire que c'était du terrorisme, et elle s'obstinait. Bon, vous voyez qu'elle était. J'ai trouvé ça ridicule et pathétique, quoi. Parce que il ne fait pas de doute que l'attentat du 7 octobre, c'est du terrorisme. Bon. Le terrorisme, c'est l'utilisation de. Alors, ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de définition du terrorisme.
Oui, tout à fait.
Mais pour moi, le terrorisme, c'est l'usage de toute forme de violence pour terroriser une population civile, quoi. Bon, voilà, en résumé.
Oui,
quelles que soient les formes de violence les plus extrêmes ou plus modérées. Donc, il ne fait pas de doute que l'attentat du 7 octobre, c'est du terrorisme. Mais le problème avec l'absence ou la volonté de ne pas définir le terrorisme, en fait, et ça date de George Bush, le père, c'est que si on définit le terrorisme, on est obligé d'inclure dans le terrorisme d'État. C'est-à-dire que... On l'a vu après le 7 octobre, parce que quand les militants de la France insoumise voulaient dire Netanyahou est un terroriste, ce qui est parfaitement vrai, c'était occulté complètement, quoi. Les journalistes, enfin, ou les pseudo-journalistes, occultaient complètement la question. Il n'est pas question d'admettre qu'un État puisse avoir recours à du terrorisme. Et c'est ça l'enjeu du refus de définir.
Non, mais justement, c'est pour ça que là, ça m'évoque d'autres débats dans lesquels parfois on est prisonnier des mots, en fait. On est prisonnier du sens que donnent les journalistes, les militants, les universitaires, etc. Et sans qu'on puisse, nous, de manière plus ou moins indépendante, ou plus ou moins neutre, même si on ne peut pas toujours être neutre et objectif, essayer de ramener les choses à ce qu'elles doivent être. Moi, je te rejoins dans la définition du terrorisme. Là aussi, hein, je peux donner un exemple historique, une analogie, qui a été utilisée beaucoup après le 7 octobre par des personnes qui essayaient de légitimer, en fait, parce qu'en réalité, c'est ça, la question, c'est celle de la légitimation. Quand on demandait de condamner le terrorisme, en fait, c'est en gros de quel côté de la barrière vous êtes.
Ouais.
Ça revenait à ça. C'est pour ça que faut pas se laisser prendre par la question de définition, parce que on en vient des trucs très techniques, juridiques et autres. C'est comme la qualification de génocide, apartheid. Bon. En gros, on a sommé des personnes à se solidariser ou non avec un acte, avec une organisation, avec une population. Et je pense qu'il faut distinguer ces trois niveaux, ou avec une cause, en réalité. Donc, et le débat, de toute façon, en France, il est extrêmement biaisé pour plein de raisons, en réalité, peut-être qu'on pourrait revenir dessus avant la fin de l'émission, parce que c'est ce qui explique, à mon avis, la très grande sensibilité, le fait qu'il y ait des procès d'intention en permanence. Quand quelqu'un prend la parole sur cette question-là, il est directement catalogué et on va le et on va en fonction de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu faire ou écrire ou que sais-je encore, on va reporter sur lui ses affects, ses peurs, ses angoisses, ses tabous ou que sais-je encore. Donc oui, la question du terrorisme elle est complètement biaisée parce que effectivement c'est une technique, d'accord, c'est un usage de la violence. Les révolutionnaires algériens, les anticolonialistes algériens parlaient aussi de terrorisme. En fait, ils distinguaient quoi ? Ils distinguaient des modes opératoires, d'accord ? De manière très froide. Il y a les maquis, d'accord ? Donc on lève des partisans avec des armes, ils vont dans le djebel, ils vont à la montagne. Donc ça, c'est les maquisards. Et puis il y a le terrorisme urbain. Le terrorisme urbain, le terroriste urbain, c'est celui qui va soit cibler un indicateur, un policier, un militaire ou que sais-je encore. C'est celui qui peut éventuellement, ça c'est ce qu'a fait plutôt le FLN, mettre, déposer des bombes dans des endroits pour cibler des civils et donc installer un climat de peur, souvent en représailles aussi à des attentats hein, qu'on perpétrait, ne l'oublions pas non plus, hein, les colons et les autorités coloniales. Hein, donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que tu dis qu'il y a aussi du terrorisme d'État. Faut pas être sélectif en fait, faut pas être aveugle hein, dans la définition. Mais encore une fois, ne nous laissons pas prendre au mot. La question, elle est plutôt de l'action de la légitimité de la cause et aussi de la question des moyens employés. Et je pense que c'est peut-être ça qui a été difficile à aborder en France. C'est ce qui a été discuté parce que je suis davantage attentif à ce que vont dire mes camarades anglo-saxons que je lis de façon sans doute plus assidue, que mes camarades francophones. Et donc il y a eu des discussions intéressantes justement sur la question de la légitimité des moyens employés, notamment le 7 octobre, d'accord, sur les effets que ça a pu avoir et sur le fait que ça ne justifie pas le fait, eh bien précisément, qu'on ne se solidarise pas avec les Palestiniens, en réalité. Donc, mais là aussi, comme vous voyez, il faut faire des détours, il faut faire de longues phrases, et quand on est pris par l'émotivité, quand on est aussi pris, ça peut être que certains auditeurs sont sensibles à ça, oui, il y a de la propagande, il y a des médias lourds, des médias d'État, qui vont peut-être, alimenter ou mettre la focale davantage sur un aspect du conflit que plutôt sur l'autre, sur une population plutôt que sur l'autre. Et là, ça peut nourrir effectivement ce sentiment de deux poids, deux mesures. D'accord ? Et nourrir ce sentiment d'injustice. Et parfois, quand on est pris dans ce sentiment d'injustice et qu'il y a un deux poids, deux mesures permanent de la part des États, des médias de masse, etc., on peut être amené, eh bien, à baisser la garde par rapport à la critique, en fait, par rapport à ses exigences. Et donc, face à un conflit qui est au loin, abandonner notre grille de lecture et nos principes. Et moi, je pense que quand on est internationaliste, quand on essaie de l'être en tout cas, je pense qu'on doit être aussi exigeant sur des situations qui nous touchent de près au quotidien, là où on est, qu'également avec des situations qui sont à des milliers de kilomètres de nous et qui, bah, précisément, comme j'ai des convictions humanistes et internationalistes fortes, eh bien, j'essaie de ne pas baisser la garde et d'avoir le même niveau d'exigence et de solidarité et avec ce qui se passe également à des milliers de kilomètres de moi, puisque ça me touche également.
Il y a les médias français sont un peu hors sol, je veux dire, par rapport à leurs petits camarades anglo-saxons en particulier. Les grandes agences de presse anglaises, américaines, canadiennes, Reuters, BBC, canadienne, l'équivalent canadien de la BBC, etc., ont donné consigne à leurs journalistes de ne parler de terrorisme que lorsque c'est la citation de quelqu'un qui parle de terrorisme. Mais que pour le reste des les autres cas, il fallait trouver une périphrase. L'idée étant que le terroriste de l'un est le combattant de la liberté de l'autre. Et ça peut paraître choquant, mais c'est les grands médias parfaitement capitalistes, je veux dire, anglo-saxons, quoi, la BBC, le Reuters, etc., qui donnent cette consigne, quoi. C'est-à-dire que quand on voit les médias français s'indigner parce que ce pauvre Mélenchon ne veut pas parler de terrorisme, ils sont à côté de la plaque, quoi, en fait. Ils sont complètement à côté de la plaque.
Non, mais alors, justement.
On se demande dans quel monde ils vivent, quoi.
Mais précisément, peut-être que, avec le temps, je crois qu'il ne nous reste pas très longtemps. Moi, c'est une question, là, je ne vais pas dire qui m'obsède, mais en tout cas qui me travaille beaucoup. Et si je devais écrire à nouveau sur le conflit, j'essaierais de l'intégrer à l'analyse, mais je la soumets à la discussion, évidemment, on peut être d'accord ou pas. Ce qui explique cette grande sensibilité aussi en France, y compris dans nos milieux, enfin en particulier, pardon, dans nos milieux, je pense qu'il y a au moins deux choses quand même. Il y a deux choses qui font que c'est plus compliqué ici. C'est d'une part, eh bien, l'histoire juive de la France, et cette histoire juive de la France, elle n'est pas très glorieuse, d'accord ? Contrairement précisément à certains pays anglo-saxons, il y a une responsabilité de l'État français dans la persécution et la déportation de juifs. Je pense que ça
joue, je pense.
C'est un facteur qui est extrêmement important. Et je pense que malheureusement, certains de nos compagnons, nos camarades, ont tendance à aller un peu vite là-dessus, à ne pas le prendre en considération dans l'analyse. Bon, moi je tiens à le rappeler. Et la deuxième chose que je ne veux surtout pas opposer, et là encore, malheureusement, comme il y a une très grande segmentation dans la... à la fois dans nos modes de vie, dans nos lectures, dans nos centres d'intérêt. Et pourtant, je pense qu'il faudrait essayer d'abattre justement ces cloisonnements pour bien vraiment comprendre et ne pas oublier, même si, je le précise, ma phrase est peut-être un petit peu longue, ne nous faisons pas de mauvais procès, on ne peut pas parler de tout, et surtout quand on est derrière un micro, ce n'est pas toujours évident, on essaie aussi de s'écouter, on se regarde également, et puis il y a la montre qui défile. C'est une discussion qu'on pourrait avoir des dizaines, des centaines de fois, on n'aurait pas épuisé le sujet. Donc encore une fois, pas de procès d'intention. C'est la question coloniale, c'est la question algérienne également. Et ça, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais exhumé des textes, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais exhumé un texte du Monde Libertaire sur lequel était écrit noir sur blanc que la ferveur pro-israélienne qu'on trouvait dans les médias de droite, notamment durant la guerre des Six Jours, mais aussi dans certains courants de gauche, en réalité, c'était une espèce de revanche sur l'indépendance qui avait été arrachée par les Algériens. Et donc, dans le soutien inconditionnel de certains cercles à l'État d'Israël et à la cause du sionisme, il y a en fait une revanche contre l'arabe, contre l'Algérien. Donc ça aussi, ça pèse sur les consciences. Alors, est-ce que c'est toujours aussi fort ? Moi, je pense que ça travaille toujours les mémoires, les inconscients. Mais je pense qu'il faut essayer de relier dans l'analyse, dans la manière dont on appréhende à une très grande sensibilité les aveuglements aussi qu'on peut avoir sur la question du racisme, qu'il s'agisse du racisme anti-arabe ou de l'antisémitisme, à droite ou à gauche, hein. C'est là-dessus, je pense qu'il y a match nul, malheureusement. Il faut prendre en considération ces deux événements extrêmement importants dans l'histoire de ce pays et qui travaillent les mémoires, les représentations, aussi bien à droite qu'à gauche, qu'à l'extrême droite, qu'à l'extrême gauche.
Juste un petit mot pour revenir sur un élément de la conversation. Là, je remonte un petit peu en arrière sur cette question, justement, tu l'as bien expliqué et bien... même critiquer Najib, mais quand même, sur cette question justement, État binational ou deux États, le livre de Shlomo Sand, là, qui vient de paraître, Deux peuples pour un État, point d'interrogation, qui pose la question justement, est-ce qu'il le dit, c'est dans une interview qu'il accorde, je ne suis pas pour un État binational, mais on n'a pas d'autre solution. Il y a quand même eu récemment introduit dans la constitution, enfin, il n'y a pas de constitution en Israël, mais dans ce qui pourrait y ressembler, la notion de l'État israélien est un État juif. Hein, c'est une définition religieuse de l'État, donc qui va un petit peu en contradiction avec cette éventualité, beaucoup de points d'interrogation. Hein. Par rapport à la question justement du terrorisme dans les luttes anticoloniales, je vais te citer dans un texte que tu as qui a été publié sur le site à contretemps consacré donc à Camus où tu fais une recension critique, même très critique, d'un livre paru récemment aux éditions La Fabrique, Oublier Camus. Voilà, je te la citation. Alors, pour la remettre dans le contexte, une lettre adressée le 25 mars 1955 au militant proscrit Daniel Reynard, l'écrivain Camus, adhère au comité pour la libération de Messalil Hadj et des victimes de la répression sans s'interdire d'exprimer sa réprobation du terrorisme. C'est ce que dit Camus. Vous pouvez du moins, dans votre action actuelle, utiliser mon nom chaque fois qu'il sera question de faire libérer des militants arabes ou de les mettre à l'abri des répressions policières. Mais dans la mesure où mon opinion peut intéresser nos camarades arabes, je compte sur vous pour leur faire savoir que je désapprouve totalement le terrorisme qui touche aux populations civiles. J'ai la même opinion du contre-terrorisme naturellement. Le seul résultat de ces méthodes aveugles est en effet, j'ai pu le constater, de renforcer puissamment la réaction colonialiste et de réduire à l'impuissance les Français libéraux dont la tâche est aujourd'hui de plus en plus difficile.
Ouais, c'est génial.
Voilà, ça a été écrit à presque 70 ans.
Ouais.
Et ça résonne avec l'actualité. Et tu parlais tout à l'heure de... Effectivement, de principe, ou moi je dirais plutôt de boussole. Hein. Alors, bien sûr, ça peut ressembler comme ça à des grands mots. On est loin du. Bien sûr, on n'est pas sur la ligne de front. Hein. Mm. On est ici dans notre petit entre guillemets confort, mais c'est pas pour me jeter de la cendre. Mais je pense que c'est important de rappeler ça. Une autre citation que j'extrais d'un excellent numéro d'une revue suisse qui s'appelle Les Explorations. C'est édité par un site internet qui s'appelle Eddy.news et c'est le numéro de septembre dernier qui est consacré à la Palestine à Israël. C'est un numéro double en quelque sorte. D'un côté, c'est Palestine, terre d'humiliation, et d'autre côté, c'est Israël, terre de promesse. Et l'intérêt de cette revue, c'est qu'elle met en miroir ces deux sociétés qui sont voisines et qui s'ignorent quasiment totalement, ou qui, quand elles ne sont pas en confrontation directe, comme c'est malheureusement le cas actuellement, et aussi avec ces confrontations régulières sur la colonisation. Et là, c'est le témoignage d'un Palestinien qui vit donc en Cisjordanie. Donc, depuis 30 ans, cette famille, depuis 1991, les autorités israéliennes ont décrété le terrain de cette famille propriété d'État. Et depuis, cette famille est engagée dans une bataille juridique sans fin, rythmée par les démolitions d'infrastructures, la destruction des cultures et les attaques des colons. C'est leur quotidien depuis 1991. Et voilà ce que dit un des membres de cette famille. Il s'appelle Daoud. Lorsque l'espoir disparaît, il y a deux options. Soit la violence, soit la passivité. S'asseoir, pleurer, devenir une victime. C'est un droit, mais cela implique d'attendre qu'on vienne vous sauver. Nous avons toujours refusé ces deux options, estimant qu'elles nous tueraient de l'intérieur. Nous refusons de haïr et personne ne peut nous y forcer. Quand un colon débarque armé, la réaction normale est de vouloir se défendre physiquement. Deux des frères de ce témoin ont été grièvement blessés en 2022 sur leur propre terrain, c'est la note de l'éditeur. L'agresseur s'y attend. C'est comme ça que vous rentrez dans un cercle de violence. Notre message consiste à casser ce cercle. Nous documentons les violences sans y répondre, même s'il n'a jamais rien donné pour le moment. Nous gardons foi en la justice, même si le temps de la justice est long. Je vous recommande vraiment ce numéro de cette revue qu'on peut commander sur Internet. C'est très, très, très intéressant et ça donne beaucoup, beaucoup d'exemples sur cette situation. On arrive au terme de l'émission. On a fait qu'effleurer la question. Il y a encore beaucoup de questions qu'on a laissées en suspens. C'est un très vaste sujet sur lequel il faudrait pouvoir revenir. En tout cas, je vous incite à aller sur le site de René Berthier, Monde Nouveau. Alors, René, tu vas m'aider. Hein, ton site, c'est Monde Nouveau.
Monde-nouveau.net.
Voilà.
C'est pas le site de René Berthier. Il y a pas mal de mes textes, mais c'est le site du Cercle d'études libertaires.
Merci pour la précision, afin de trouver justement des textes que tu as écrits sur la question et sur les relations Israël-Palestine. Et puis le site de Nejib.
Oui, cinejib.com. Encore une fois, bon, j'ai pas prévu de faire de la publicité, mais non, pense qu'il y a peut-être un... La nécessité aussi de revenir à des questions de principe, à des questions d'histoire, ça peut permettre d'éclairer, ça peut permettre de dégager des positions, ça peut permettre aussi de mesurer aussi les illusions qu'avaient pu être celles de nos prédécesseurs. C'est pour ça aussi que ça doit rendre humble et modeste. Donc personne aujourd'hui n'est en mesure de donner des leçons à quiconque, parce que presque tout le monde s'est trompé.
Oui.
D'accord ? L'horreur actuelle le prouve. Donc modestie, néanmoins, comme tu dis tout à l'heure, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit abandonner toute boussole, toute forme de boussole morale. J'aime pas le mot, mais quand même, tout de même, il y a un peu de ça.
Ouais,
et politique. Et donc, voir ce qu'ont essayé de faire les générations antérieures. Moi, je pense notamment parmi les textes que j'ai exhumés. Il y a eu une organisation qui s'appelait le Matzpen. Il y a eu des tentatives de dialogue, de discussion, d'organisation directe entre militants arabes et juifs de la région, notamment à travers des revues, une revue qui s'appelait la revue Khamsin, qui était d'abord éditée chez Maspero à Paris avant de déménager à Londres, et qui était là aussi un espace d'élaboration de socialistes internationalistes du Moyen-Orient. Et bah, je le dis, moi, très tranquillement, hein, tout à l'heure, j'ai fait référence à un texte que j'ai appuyé, même si on peut toujours avoir des réserves, et je peux en avoir, comme en général, quand on n'écrit pas un texte, soi-même directement. Moi, je suis prêt à appuyer toute initiative, tout dialogue, toute volonté d'action conjointe, directe, entre militants arabes et juifs de la région, et plus largement entre militants internationalistes, sans condition de nationalité, de religion ou de statut, pour précisément eh bien aboutir à la paix et à une transformation de la région et de cette société et du monde dans lequel on est aujourd'hui. Je pense que là encore, mal, il faut pas céder à l'abattement, il faut pas céder au désespoir, même si la situation est horrible. Et je pense évidemment à la population de Gaza et de Cisjordanie et aussi d'Israël, hein, qui souffre aujourd'hui. Nous, justement, comme on est dans ce confort-là que tu as mentionné tout à l'heure, eh bien, profitons de ce confort pour essayer de dégager des cadres et essayer d'être attentif à ce qui peut se passer ici ou là.
Merci Najib, ce sera le mot de la fin.
هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايل، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من